Shalom, vous écoutez les messages Vie d'Alliance avec le pasteur Alexandre Amazou. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, les messages Vie d'Alliance vous accompagnent au quotidien dans le but de renforcer votre foi et redynamiser votre vie chrétienne. Faites alliance avec la parole de vie. Dieu vous bénisse.
La grâce pour commencer et finir. On va voir aujourd'hui juste une introduction et puis nous allons bien asseoir les fondements à partir de dimanche prochain et l'autre dimanche. Dis avec moi la grâce de commencer et finir. Alléluia. Beaucoup de gens commencent mais ne finissent pas ou finissent mal. Vous savez, je vous ai donné ici, j'ai parlé ici du drame qui est arrivé avec l'équipe de Jésus-Christ. Lorsque Jésus est venu sur terre, la Bible dit que Jésus a jeûné et Jésus a choisi ses disciples. Donc il a veillé toute la nuit. Le matin, il est allé, il a choisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais vous savez, dans ces 12 qu'il a choisi, bien qu'ils aient tous été le choix de Dieu, et que ce soit Jésus lui-même qui ait formé chacun, qui ait marché avec chacun, qui a enseigné chacun, au soir de leur vie, leur histoire était différente les uns des autres. Et il y a deux particulièrement qui attirent toujours mon attention, c'est Pierre et Judas. Voilà deux personnalités qui ont marché avec Jésus, mais qui n'ont pas eu la même fin. Pierre qui a fini dans la gloire et Judas qui n'a pas achevé sa course ou qui l'a mal achevé. Donc voyez qu'il est important dans la vie de chaque croyant de comprendre qu'il y a toujours une grâce pour commencer et pour finir. Parce que beaucoup commencent, mais peu sont ceux qui finissent. C'est pourquoi il ne faut pas être trop excité à juger les gens quand ils n'ont pas fini. Il ne faut pas être trop, tu vois, pressé à dire, mais toi, on ne te voit pas, tu es qui? Tu n'as rien fait. Alors que le monsieur n'a pas fini. Parce que tant qu'un homme vit, tout est. Et vous savez, l'histoire de la Côte d'Ivoire doit vous amener en tant qu'église à avoir beaucoup d'humilité lorsque vous approchez les gens, lorsque vous parlez avec les gens. Mon ami, tu peux voir un homme aujourd'hui, il n'est peut-être rien, mais tu ne sais pas ce qu'il peut être demain. C'est pourquoi je veux que tu regardes ton voisin juste à côté et que tu dises, je te respecte. Oui, j'ai du respect pour toi parce que je ne sais pas jusqu'à où Dieu peut t'envoyer dans la vie. Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia! Alléluia! Maintenant, dis-lui avec humilité, souviens-toi de moi dans ta gloire. Oui, parce qu'il sera sûrement dans une gloire. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus ce matin? Alléluia. Frère, le plus important dans la vie, ce n'est pas comment tu commences. Les hommes vont retenir comment tu as fini. Dites amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec conviction? Quand vous prenez l'histoire de certaines personnalités dans le monde, vous savez, on me racontait l'histoire d'un certain homme de Dieu. C'est-à-dire, et parmi eux, il y avait un homme qu'on appelle Billy Graham. C'est-à-dire, à cette époque-là, 1945, à 1800 pratiques, quand ils sont sortis, quand ils ont commencé à servir Dieu, c'est des hommes qui sont sortis en même temps. C'était une génération d'hommes de Dieu. Ils sont sortis, ils ont commencé à faire l'œuvre de Dieu. Et plusieurs années plus tard, ils étaient sortis peut-être à 10 ou à 15. Il y en a qui ont fait du bruit, grand ministère, ils font tapage, bo, 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 bo. Tout, ce n'est pas ça. plusieurs années plus tard, lorsqu'on observe, on se rend compte que tous, ils ont disparu. Et c'est seulement Billy Graham qui est demeuré jusqu'aujourd'hui où je te parle. Vous voyez que, donc ce n'est pas la façon dont tu commences la vie. Tu peux commencer mal parce que parmi vous ici, là, vous savez, malheureusement, nous sommes issus de familles différentes. D'autres sont nés dans des familles pauvres. D'autres sont nés même avec crédit. C'est-à-dire, tu es né, tu n'as même pas dépensé, déjà tu dois. Hein? D'autres sont nés au bas de l'échelle. D'autres sont nés, bien sûr, avec une cuillère d'or dans la bouche. Mais qu'importe le commencement d'un homme, s'il peut mettre sa foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tout peut changer dans sa vie. C'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas où tu as commencé. Je ne sais pas quelle est ta condition, mais je suis venu t'encourager pour te dire, depuis la mort et la résurrection de Jésus, tous les hommes sont au même pied d'égalité. Je te le dis et je te dis la vérité. Tu peux être fils de sultan, tu peux être fils de président, qu'importe qui tu es, tu peux être fils de pauvre, fils de manœuvre, ça ne compte plus. Dites amen. Parce qu'avec la foi en Jésus, nous avons désormais la capacité d'obtenir ce que nous voulons. Dites amen. Il n'y a plus de limite. Dieu a réparé les injustices que la vie a imposées de façon naturelle aux hommes qui sont nés. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas t'asseoir et dire, regardez celui-là, regardez comment ça va mieux pour lui. Regardez, son papa est riche, alors tout ce qu'il veut. Non, mon ami, il a un père peut-être qui peut faire pour lui jusqu'à un certain niveau, mais toi, tu as plus qu'un père. Dites amen, dites amen, dites amen, dites amen, dites amen. Voilà pourquoi, frère, s'il y a une chose qu'il vous faut, c'est la grâce de Dieu. Tout le reste là, c'est bavardage. C'est la grâce. La grâce de commencer et de finir. Parce que beaucoup de gens commencent mais finissent mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Judas et Pierre étaient disciples de Jésus. Collaborateurs de Jésus. Marchaient avec Jésus. Judas a fini pendu. Pierre a fini dans la gloire. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pierre a reçu la grâce. Jésus a prié pour lui. Et ce matin, Dieu va te communiquer une grâce qui va faire la différence dans ta génération. J'ai dit, Dieu va te communiquer une grâce qui va faire que tu feras la différence dans ta génération. Si tu le crois, dis amen avec conviction. Dieu va te communiquer une grâce ce matin. Alléluia. Dieu ne nous a pas placés sur terre pour juste venir faire un tour. Mais Dieu nous a envoyés ici-bas parce qu'il a un mandat pour nous. Et ce mandat-là, vous devez l'accomplir. Dis, j'accomplirai mon mandat. J'accomplirai ma raison d'être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort prématurée ne me prendra pas. Tout ce qui arrête les héros ne m'arrêtera pas. Vous savez, dans ce pays, la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose dans l'air qui arrête tous ceux qui ont une grande destinée. Ou à un moment donné, ils commencent bien, mais ils finissent mal. Quand vous prenez, mais prenez même l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous allez voir que... C'est-à-dire, nous avons des héros, mais... C'est un peu mitigé. Parce que il y a des esprits qui travaillent pour que soit tu peux te débrouiller, tu arrives à un certain niveau, mais à un moment donné, ils vont ternir ton image et puis tu restes là. Ou il y a un scandale qui va venir et puis tu restes là. Ou il y a un problème quelconque qui arrive. Mais dans tous les cas, tu finis pas comme Dieu aurait voulu que tu finisses. Mais ce matin, Dieu va te communiquer une grâce de casser cette barrière au nom de Jésus. Tu n'es pas venu te promener ici à Abidjan, mais tu es venu parce qu'il y a un mandat que Dieu a destiné à ta vie Et ce mandat doit s'accomplir. Quels que soient les plans de l'ennemi, ce mandat doit s'accomplir. Est-ce que tu peux dire amen? Nous allons faire quelques lectures. Nous allons prendre Matthieu d'abord 24, verset 13. Première lecture, on va se lever dans sa présence. Avec révérence pour sa parole. Et nous allons faire cette lecture. Matthieu 24, verset 13. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 24, 13?
Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Mais, est-ce qu'on peut répéter ensemble?
Mais.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
C'est un verset important. Il dit, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Mais tu peux te dire, mais attendez, ça ne dépend pas forcément de moi. Il parle de persévérer jusqu'à la fin. Vous savez, la récompense est toujours attachée à la finition du boulot. Là où le travail n'est pas achevé, la récompense n'est jamais totale. Donc ici, il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Le mot sauvé ici, ce n'est pas, ça dit, il faut voir, c'est le salut dans sa généralité, c'est-à-dire de son entièreté, pas nouvelle naissance, mais sera sauvé dans le sens où tout ce que Dieu a attaché comme récompense à sa vie, là, il aura ça. Il ne sera pas seulement né de nouveau, parce qu'il ne suffit pas d'être né de nouveau et puis de ne pas posséder l'entièreté de ce que Dieu a pour toi. Une deuxième lecture, rapidement. Lis-moi Hébreux 3, verset 14. Oui.
Hébreux 3, verset 14.
Oui.
La Bible dit, car nous sommes devenus pourvu que nous que nous avions au commencement.
Répète.
Car nous sommes devenus
participants de Christ
pourvu que nous retenions fermement
jusqu'à la fin
l'assurance que nous avions au commencement,
c'est-à-dire que l'amour de Dieu, l'assurance que tu as reçue au commencement, demeure jusqu'à la fin. Ça ne sera pas évident, Église. Mais voilà là où Dieu vous attend. C'est pourquoi je te dis, il te faut une grâce exceptionnelle pour commencer avec Dieu et pour achever avec Dieu dans la même vitesse. Frère, si vous voyez des gens qui ont de la longévité dans le ministère, ayez du respect pour eux. Voilà pourquoi un homme qui n'a pas d'égard pour les pères, est un homme qui n'ira pas loin. Ça, c'est un principe qui est trop élémentaire. Tu ne sais pas respecter quelqu'un qui est vieux, tu ne seras jamais vieux. Merci, asseyez-vous. Je ne veux pas être long, je vais juste introduire, parce que je veux entrer, si je veux entrer dans les détails, aujourd'hui, on ne pourra pas. Parce que je veux te montrer, c'est un autre personnage, un peu comment certains ont commencé, certains ont achevé, ceux qui n'ont pas commencé, qui ont commencé, qui ont mal achevé. Quel a été le facteur déterminant pour que certaines personnes achèvent leur course et d'autres n'achèvent pas? C'est important de le comprendre parce que ça va t'aider à ne pas commettre certaines erreurs qui ont arrêté certaines personnes dans leur course ou qui ont fait qu'ils ont avorté leur vision. Parce qu'une vision est une chose, c'est une bonne chose d'avoir une vision, mais avoir une vision ne garantit pas que la vision là s'accomplira. Si tu ne mets pas en place ce qu'il faut, la vision peut avorter. La preuve, une femme peut tomber enceinte. Mais le fait de tomber enceinte, on va fêter. Mais nous tous, on sait que entre tomber enceinte et accoucher, c'est deux choses. Parce qu'il y a des femmes qui avortent au milieu. Le médecin te dira, on ne fait pas ça, on fait ça, ne marche pas comme ça. Fais attention, hein. Quand tu fais comme ça, il faut t'asseoir, il ne faut pas courir, il ne faut pas faire comme ça. Si tu fais, tu vas voir que le bébé, hop. Oui, la vision est la même chose. Et c'est dommage de voir l'église, des gens qui commencent le ministère. Moi, souvent, je réfléchis et ça me fait un peu bizarre. Parce que même quand tu regardes le paysage chrétien en Côte d'Ivoire, il y a comme cette épée-là qui plane. On a des devanciers dans la foi qui ont commencé, qui ont eu de la renommée, puis paf, un coup. disparu un coup. On ne sait plus où ils sont. Soit ils sont morts, soit d'autres sont partis, ou soit d'autres ont fait le ministère. Mais après des années de ministère, tu vas chercher même un bureau qui représente le ministère, tu ne trouves plus. Dès qu'ils bougent, le ministère bouge. Ou dès qu'ils disparaissent, le ministère disparaît avec eux. Dieu ne nous a pas envoyés sur terre pour vivre une vie, tu vois, éphémère, où on passe, il n'y a pas de traces. Dieu veut que tes empreintes restent pour que les générations qui te suivent regardent tes empreintes et donnent gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire amen? Et cela doit être le désir et le fardeau de votre cœur. C'est pourquoi tout ce que vous faites, vous devez le faire pour les générations. Mais on ne travaille pas pour, tu vois, juste manger et boire. Trop de chrétiens ont pour objectif ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire. Toute leur vie est calquée autour de ça. Ce que je vais manger, ce que je vais boire. Ce que je vais manger, ce que je vais boire. Ça fait que dans leur comportement, même dans l'église, ou dans les affaires du Seigneur, c'est visible. Mais je suis venu ce matin, Dieu m'a parlé hier et m'a dit, dis-leur que j'attends plus que manger et boire. Alléluia. Tout ce que Dieu le fait de façon générationnelle. Dieu ne travaille pas juste pour deux jours et puis ça disparaît. C'est pourquoi même en tant que responsable dans l'église, quelle que soit la position que Dieu te donne, tout ce que tu fais, travaille dans l'esprit de rendre cette œuvre-là générationnelle pour qu'elle aille jusqu'à la fin. Tu vois, il y a certains responsables de famille qui sont déjà fatigués. Après deux, juste un passage. Oh, si Jésus revient dans 50 ans, tu dois être à ton poste et continuer à faire le travail jusqu'à la fin. C'est une caractéristique. Alléluia. Mais vous voyez, pour arriver à là, vous devez comprendre quelque chose que nous allons voir peut-être à partir de dimanche prochain. Ce qu'on appelle les dimensions dans le caractère. Et vous savez, il y a quatre dimensions importantes, je vais te citer. Et puis, on va juste voir un, et puis demain, dimanche, on va continuer. La première dimension, parce que le caractère de l'homme a quatre dimensions. Numéro un. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la longueur du caractère. Dis avec moi la longueur du caractère. Deuxième dimension dans le caractère, c'est ce qu'on appelle la profondeur du caractère. Ensuite, il y a la largeur du caractère et il y a la hauteur du caractère. Donc, longueur, profondeur, largeur, hauteur. Donc, tout être humain a quatre dimensions dans son caractère. Maintenant, le point dont nous sommes en train de parler maintenant, concernant le fait de commencer et de durer, est rattaché à la longueur dans le caractère. Parce que lorsqu'on parle de longueur dans le caractère, on parle de quelque chose qui dure dans le temps. Et la longueur du caractère comporte un certain nombre de choses que nous allons voir après, mais dans les détails. Je vais juste les citer et faire quelques petits commentaires et nous allons revenir là-dessus. J'ai dit que c'est une introduction aujourd'hui. Alléluia. Dans la longueur du caractère, nous avons le premier qui compose la longueur du caractère, c'est ce qu'on appelle la fidélité. La fidélité est un élément de la longueur du caractère. Ça veut dire un homme qui ne travaille pas pour permettre à Dieu d'établir ou de faire grandir son degré de fidélité est un homme qui va commencer, mais qui ne pourra pas achever. Deuxième élément dans la longueur du caractère. Donc, la fidélité est un élément important. Et vous allez voir, très souvent, les hommes qui n'achèvent pas sont des hommes infidèles, des hommes qui ne sont pas fidèles. Et vous, j'ai dit ici un jour que la fidélité fait partie de la nature de Dieu. Dieu, on l'appelle le fidèle. Et nous aussi, on nous appelle le fidèle. On dit, qu'y a-t-il entre le fidèle et l'infidèle? On appelle ceux qui ne croient pas en Dieu les infidèles et ceux qui croient en Dieu les fidèles. Donc la fidélité est une affaire de nature. Au-delà de ce qu'un homme peut faire, la fidélité est d'abord être avant de faire. Malheureusement, s'il y a une chose que nous constatons dans la vie des croyants en général, c'est qu'ils sont foncièrement infidèles. infidèles avec eux-mêmes, c'est qu'ils déteignent dans leur façon de se comporter, de marcher et de traiter même le travail que Dieu met entre leurs mains. Mais je veux te dire, Dieu va te confier une tâche. Mais quand Dieu te confie une tâche, mon ami, Dieu t'observe. Si tu n'as pas cette nature qui tient dans le temps, la tâche là, tu vas laisser. Oui, même si ça doit concourir à ton bien, tu vas laisser un jour. Parce que tu as une nature infidèle. Et vous savez, quelqu'un qui a une nature infidèle, c'est quelqu'un qui est comme ça. Il varie comme ça. Aujourd'hui, il est ici, demain, il est là. Il voit ça, demain, il voit l'autre. Après, il a envie de faire ça. Ces genres de personnes-là, quand tu leur donnes, quand ils démarrent une affaire, ils démarrent aujourd'hui. Il est très content, chaud. Deux semaines après, oh, ça dit tout l'enthousiasme, la tombe, et puis hop, il cherche à faire autre chose. Il dit non, c'est vrai, je voulais faire, mais parce que je sens que Dieu me conduit vers autre chose. Mais en fait, son problème est plus profond que ça. Deuxième élément dans la longueur du caractère, c'est ce qu'on appelle la stabilité. Tout le monde dit avec moi, stabilité. Vous savez, un homme qui manque de stabilité, vous savez, la stabilité et la fidélité sont différents. Hein? J'espère que tu sais. Là où il n'y a pas de stabilité, on ne peut pas achever. Regardez avec moi, vous ne verrez partout où vous voyez quelque chose de stable, ou quelque chose qui a fini et qui tient, ça veut dire que ça a commencé sur de la stabilité. La preuve, vous ne verrez aucun architecte qui veut bâtir quelque chose de grand et de durable, qui ne va pas faire une étude de sol. D'abord, numéro un, ça dit qu'il ne construit pas sur n'importe quoi. Il va faire l'étude de sol, il va dire non. Ici, là, ce n'est pas bon. Là, c'est mieux. Mais quand il va te dire là, c'est mieux, après les études, il va se rendre compte que le sol qui est là, peut tenir le bâtiment même pour 200 ans. Mais ce sol-là, si je bâtis là-dessus, 3 ans après, le bâtiment va s'écrouler. Donc, tout bâtiment qui tient commence dans la stabilité. Et vous savez avec moi que tout ce qui se fait de façon durable commence avec la stabilité. Là où il n'y a pas de stabilité. C'est pourquoi la vie chrétienne commence par la stabilité. On ne commence pas la vie chrétienne par marcher, mais par s'asseoir. C'est-à-dire, quand on donne notre vie à Jésus, la première chose que Dieu fait, c'est de nous dire, vous êtes quoi? Des lions. Le lion est le symbole de la royauté. Et la royauté, c'est le trône. Et un roi, il n'est pas debout, il est assis. Ça veut dire quoi? Quand on devient chrétien, Dieu nous dit, voilà la position que vous avez, voilà ce que vous devez faire, vous vous asseyez pour prendre tout ce que j'ai fait pour vous. Vous l'acceptez, vous prenez, on ne commence pas par marcher. C'est après le stade de lion qu'on passe au stade de veau. C'est au niveau du stade de veau qu'on commence à travailler. Mais après qu'on ait eu le temps de bien s'asseoir, celui qui ne s'assoit pas ou qui n'a pas appris à s'asseoir ne saura pas marcher. C'est pourquoi les enfants, même dans leur processus, commencent toujours par s'asseoir avant de commencer à marcher. Donc la stabilité est quelque chose d'important. Malheureusement, peu de chrétiens sont stables. Vous allez comprendre plus tard pourquoi beaucoup de gens n'achèvent pas. Je vais vous montrer un trait de caractère entre Judas et Pierre. Quelque chose qui a fait la différence entre eux deux. Et qui a fait que Pierre a tenu dans le temps, mais Judas n'a pas tenu. Et tu sais, je veux te dire la vérité. Il y a des choses, si tu les bâtis en toi, même Dieu ne peut rien faire pour toi. Parce que Jésus aurait pu prier pour Judas, mais il n'a pas pu le faire. Il a bien voulu le faire, mais il n'a pas pu le faire. Ce n'est pas de l'injustice. Parce que beaucoup de gens pensent que oui, pourquoi? S'il avait prié pour Judas aussi, Judas allait. Non. Pierre avait des dispositions qui ont amené Dieu à prier pour lui. Et Judas avait des dispositions qui ont fait que Jésus n'a pas pu prier pour lui. C'est pourquoi tu es là. Il faut faire très attention. Tu t'amuses. Tu vas être surpris. Tu seras surpris. Surpris. Tu sais, au fur et à mesure que tu apprends à connaître Dieu, tu te méfies de lui. Parce que ce n'est pas un Dieu qui traite avec les sentiments. Traite avec les principes. Tu t'amuses, il va te zapper. Comme on zappe une chaîne. Le temps de t'en rendre compte, il est parti il y a longtemps. Dans tous les cas, tes pleurs, tout ça, ça ne change rien. Et beaucoup de chrétiens souvent me suppriment. Tu vois, oh Dieu comprend, Dieu comprend. Il est bon, c'est un bon Dieu. Je pense que Dieu ne fera pas ça parce que quand même, il ne fera pas ça. Mon ami, tu penses que Dieu n'est pas dans ça? C'est sa parole ou c'est pas sa parole? Ok. La stabilité, dis avec moi la stabilité. Ah, c'est important. Hein? C'est important pour achever. Dans tout ce qui s'achève, stabilité. Dis stabilité. Et tu sais, quand Dieu veut achever une vision qu'il dépose dans ta vie, ou un mandat qu'il t'a confié, il est important que le sol que tu représentes soit stable. Sinon, comment il va bâtir? Ne t'inquiète pas, chaque mot là, on va passer son peigne fin. Troisième, dans la longueur du caractère, c'est l'intégrité. Dis avec moi intégrité. Vous allez voir que chaque longueur a ses valeurs qui n'ont rien à voir avec l'autre. Et quand on va étudier longueur, ça dit on est dans la longueur, quand on va aller dans la profondeur, quand on va dans la hauteur, tu seras étonné par ce que chaque longueur contient comme valeur. Mais c'est incroyable. L'intégrité, dis avec moi l'intégrité. Dans la longueur ici du caractère, il y a l'intégrité. Ça veut dire qu'un homme également qui manque d'intégrité, je vous ai dit ici quand on a parlé sur le thème « Faites le choix du changement », on a dit l'importance de marcher dans l'intégrité. Regardez aujourd'hui dans le monde, tout ce qui ne va pas là, c'est quoi? C'est la malhonnêteté, c'est les problèmes de... les gens ne sont pas honnêtes. C'est-à-dire, je veux dire, l'intégrité n'a pas de prix. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'église, ça manque. Et je veux vous dire, vous êtes des chrétiens. Dis avec moi, je suis un chrétien. J'espère que tu crois ce que tu dis. Dis avec moi encore, je suis un chrétien. Né de nouveau. La gloire de Dieu est en moi. Un chrétien ne ment pas les yeux ouverts. Dis que Dieu me délivre. Parce que tu vois, ça dit, les gens prennent pour rire. Mais en fait, c'est ça l'église. L'église, Jésus, quand on vient à l'église, c'est pour changer. Ce n'est pas pour écouter des beaux sermons. Un beau sermon, on donne tout le temps. Les églises sont bourrées de gens, mais c'est tous des pécheurs. 90%, 80% des gens qui viennent à l'église sont des pécheurs. Et ils disent, non, moi je suis de telle église. Moi je suis de telle église, c'est la mode. Ils donnent le nom de leur église, mais c'est des pécheurs. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Dieu n'a pas besoin de monde. Tous les bourrés, on dit, wow, mais ce n'est pas vrai. Mais oui, on veut que les gens viennent à l'église. Mais nous avons une obligation de maintenir le fond, de telle sorte que, à un moment donné, la croissance n'enlève pas le fond. On n'est pas d'accord de gagner des âmes pour gagner des âmes. Pour faire des compromissions, pour faire des compromissions. Mon ami, ce n'est pas possible. On dit non, laissez-les venir. Tout le monde est pécheur. Dans tous les cas, tout le monde se cherche dans la vie. Venez en priant. Oh, et puis tu entends des trucs comme toi, t'en fous. Tu dis, oh, le pasteur dit non, laissez les gens. Si tu parles trop, il va quitter l'église. Il faut le laisser comme ça. Même s'il vient en concubinage, on va gérer. Laisse tomber. Oh. Alléluia! L'intégrité est très importante dans la longueur du caractère pour te permettre d'achever quand tu commences. Si tu n'es pas un homme intègre, il y a des choses, tu sais, parce que dans tous les cas de figure, je suis honnête avec vous, hein. La vie là, tu ne peux pas être malhonnête tout le temps, ça va te rattraper. Et quand ça te rattrape, ça va bousiller la vision de Dieu dans ta vie. Regardez aujourd'hui, quand vous prenez un gars comme Billy Graham, mais c'est un gars qui a passé les âges, qui a passé les temps. Ils sont sortis à 10, il est resté seul sur la plateforme. Où sont les autres? Quand tu vas checker leur histoire, Il y a un. Après, il a dit oui, bon, la fête de PD là, bon, c'est possible, c'est pas possible. Il a compromis, il a fait des compromissions. Il y a un, c'est une autre affaire qu'il a arrêté là où il est et puis il est assis. Il y a un autre, mais frère, il y a toujours quelque chose. Pourquoi? Parce que, à la base, ces gens-là ne sont pas restés intègres jusqu'au bout. Mais vous prenez un gars comme Billy Graham, c'est l'un des hommes de Dieu. Je dis, je ne sais pas, il n'y a pas quelqu'un qui est contre lui. Il a fait son travail, il a évangélisé, il passe tous les milieux. C'est-à-dire, tu vas dans les baptistes, Billy Graham, évangéliques, Billy Graham, même les méthodistes, Billy Graham, même les réformistes, Billy Graham, partout, le nom de cet homme-là passe. Pourquoi? Parce qu'il est resté intègre dans l'appel de Dieu pour sa vie. Ça fait que, malgré les difficultés, parce que vous devez comprendre que vous allez passer des difficultés. Vous allez passer des difficultés et si la longueur de votre caractère n'est pas avérée, oh, vous allez vous écrouler. Vous voyez que ces éléments-là que je suis en train de vous donner là, ce n'est pas juste des choses que je dis pour dire. C'est des choses, si tu ne les as pas, il y a des défis que tu ne pourras pas relever. Non, ce n'est pas comme si, tu sais, un homme qui n'a pas de stabilité, il y a des défis qui ne peut pas relever dans sa vie. Un homme qui n'est pas intègre, il y a des défis. Vous savez, quand je parle d'intégrité, je parle du fond. Hein. Ce n'est pas juste les petits trucs, non. Il y a des hommes qui sont foncièrement déloyaux. Hein. Ils ne sont pas intègres du tout. Même où on ne ment pas, ils mentent. C'est-à-dire, personne ne peut te faire quelque chose. Le petit, ton fils te demandait où tu as mis le ballon. Et puis il ment. Alors que, c'est-à-dire, c'est ton fils, mon ami, tu peux le gifler, il n'y a rien qui va arriver. Tu mens au petit là, pourquoi? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des choses, si tu ne les reçois pas, tu ne travailles pas pour que ces choses-là grandissent dans ta vie, il y a des défis qui vont te descendre. Même si Jésus descend et puis il dort avec toi. Parce que Dieu travaille par ce qu'il construit en toi. Très important de le comprendre. Dieu construit des choses en toi et c'est avec ça, ce qu'il a construit en toi, qu'il travaille pour toi. La Bible dit que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer par la puissance qui agit en vous. Donc Dieu bâtit en vous et avec ce qu'il a bâti, il travaille pour vous. C'est ce que la Bible dit en me disant par exemple que l'esprit de l'homme est une lampe entre les mains de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Dieu n'éclaire pas l'homme, mais Dieu utilise son esprit qui est une lampe pour l'éclairer. Ça veut dire, si ton esprit est dans l'obscurité, même si tu es dans la lumière, il va te conduire dans l'obscurité. C'est le drame qu'on observe. Quand on voit des chrétiens avec un grand Dieu et des mauvaises et des petites expériences. D'où vient que ton Dieu est grand et que tes expériences sont aussi bad et médiocres? Parce que la ressource que tu mets à sa disposition n'est pas bonne. Ton esprit est la lampe qu'il utilise pour te conduire. Amen, amen. Ça va pour quelqu'un? Frère, c'est sérieux. Voilà pourquoi on est différent. Voilà pourquoi on est différent. Voilà pourquoi deux pasteurs sont différents. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui... Parce que... Voilà pourquoi on est différent. Voilà pourquoi d'autres ont une renommée, d'autres n'ont pas, d'autres s'en sortent pas, d'autres luttent. D'autres s'en sortent même pas. D'autres saluent. Ils sont obligés de prendre des raccourcis, faire des petits trucs pour avoir de ces richesses éphémères. Qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas que. Mon ami, tout ce que tu obtiens qui n'est pas droit, ça ne va pas te servir pour longtemps. Tu peux avoir une voiture, tu as fait prophétie, une fausse prophétie là. Dieu m'a dit, donne ta voiture. Si tu vas prendre ça, oui, bon. Mais après, ça va te faire quoi? Rien du tout. Et malheureusement, beaucoup de gens sont devenus friands de ces choses-là, rapides-là. Donc, c'est important. Tout ce que Dieu bâtit en vous, là, c'est pour vous. Et c'est pour votre bien. Dis avec moi l'intégrité. Sois honnête avec toi-même, intègre. Ce n'est pas négociable, l'intégrité. Il y a une autre valeur importante dans la longueur du caractère, c'est ce qu'on appelle ici la bonne volonté. C'est-à-dire, la bonne volonté ici, c'est-à-dire, c'est le vouloir faire le bien, la bonne disposition. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours mal disposés. Ouais. Il y en a plein. Ils ne sont jamais bien disposés. Même là où il faut bien se disposer, ils se disposent mal. La bonne disposition. Il y a un autre élément qui est légèrement semblable à ça, c'est la générosité. La générosité. C'est-à-dire, la générosité est une valeur de la longueur du caractère. Un homme qui n'est pas généreux est un homme qui ne pourra pas achever. Parce que tu sais, quand Dieu nous demande d'être bon, d'avoir un bon cœur, là, ce n'est pas parce que lui, il mange bon cœur. Tu as bon cœur, tu n'as pas bon cœur, il est Dieu. Il est assis sur son trône et il règne sans partage. Dis avec moi, sans partage. Mais quand il te demande d'être bon, c'est parce que décidant d'être bon, ça va te faire gagner des batailles. Parce que tu, dans la mission que Dieu t'a confiée, quand il t'a envoyé sur terre, c'est-à-dire les temps et les saisons de ta vie ne seront pas toujours faciles. Tu vas passer par des saisons difficiles. Tu vas arriver à des moments dans ta vie où tu vas avoir l'impression que Dieu là, il dort. Tu frappes, il ne répond pas. Tu cries, il n'entend pas. Tu dis, mais Dieu là, peut-être même dans ma situation, il ronfle. Un peu comme il dormait dans la barque. Les disciples disent, mais Seigneur, lève-toi. On est en train de périr. Le gars, il continue de dormir. Donc, à ce niveau-là, il te faut un certain nombre d'éléments. Parce que faire du bien, mon ami, va te sauver et va t'envoyer quelque part. Mais il y a des gens qui ne savent pas faire du bien. C'est pourquoi la Bible dit, si tu sais faire le bien, continue de le faire. Au temps convenable, tu auras ta récompense. Dis amen. Amen. Mais aujourd'hui, la société dans laquelle nous sommes travaille pour rendre les gens égoïstes. Parce que tout le monde pense d'abord à lui, à ses intérêts. Quand ça va contre mes intérêts, je ne suis pas prêt à aller dedans. Mais en réalité, toutes ces choses-là tendent à nous éloigner de Dieu et à nous rendre plus faibles. Regardez par exemple, si vous prenez une société où les gens ne sont pas très généreux, dans cette société, il va y avoir beaucoup d'échecs. Les gens vont faire les trucs, il va y avoir beaucoup d'échecs, beaucoup de choses qui vont arriver. Mais en réalité, c'est lié au fait que les gens ne sont pas généreux dans la société. Parce que le fait d'être généreux ouvre des portes de bénédiction. Donc la générosité, il y a un autre élément. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ai dit, je reviens sur certains détails dimanche prochain. Je vais introduire de façon générale et puis on va continuer dimanche prochain. Amen. Ensuite, dans la longueur du caractère, il y a une autre valeur importante qui est l'honnêteté. Bon, entre l'honnêteté et l'intégrité, c'est deux choses qui vont pratiquement ensemble. Un homme honnête. Vous savez, il y a un pasteur qui disait quelque chose un jour. Je suis en train de chercher à me souvenir de ce qu'il a dit. C'était très, très profond. Je pense que c'est Bismarck, le bishop Tudor Bismarck. Il a dit, quelqu'un peut être... Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était à Accra. Il a parlé de... Quand il... Oui? Ouais? Oui? Mais je... Explique... Oui, explique-moi un peu le... Qu'est-ce qu'il a dit là? C'est-à-dire une prostituée et puis un pasteur. Il a dit que le prostitué... Oui. Oui. C'est-à-dire une prostituée. Elle fait un boulot qui est immoral, qui n'est pas un bon boulot. Et un jour, elle allait voir un pasteur. Le pasteur a déposé son portefeuille, et puis je crois qu'il a oublié. Et la prostituée est venue, elle a récupéré le portefeuille, et elle allait remettre au pasteur. Avec l'argent, en place intacte. Elle n'a pas touché un franc. Donc il a dit, ouais, il y a une différence entre la moralité et puis l'intégrité. C'est-à-dire, elle est immorale, mais elle est intègre. C'est-à-dire, elle n'a pas une bonne moralité, mais elle ne vole pas, elle est correcte sur certains trucs, mais pourtant elle est immorale. Mais pour, et ça peut être vice-versa. Tu vas voir des gens qui apparemment ne sont pas immorales, mais qui manquent d'intégrité comme ce n'est pas permis. Lui. Maintenant, voilà, c'est-à-dire, il y a un autre pasteur qui est venu maintenant. L'autre, on a déposé le même portefeuille, mais le pasteur, lui, il est pasteur, il est correct, mais lui, il a pris l'argent. Alléluia! Vous voyez? Donc, tu vois, ce pasteur-là, il fait un boulot qui est moral, il est, mais il n'est pas intègre. Elle est immorale, on pourrait tout dire, elle vend son corps, elle est comme ça, mais il y a des choses qu'elle ne fait pas. Mon ami, il faut être honnête, c'est important. Quelque chose qui ne t'appartient pas, il ne faut pas prendre. Mais il y a combien de chrétiens qui font ça? Les gens, ils font comme ils veulent. Ils s'en foutent même à la limite. Et le dernier élément ici dans la longueur du caractère, c'est la pureté. Pureté du cœur. Quand on parle de pureté du cœur ici, il faut qu'on vous compreniez. Vous savez, quand on parle de pureté, ce n'est pas forcément sanctification. La sanctification fait partie d'un autre, ça fait partie d'un autre point de dimension, dans les dimensions du caractère. Ce n'est pas ça. Ici, on parle de pureté. Pureté par rapport au fait que Dieu, il est important que ton cœur soit pur. Mais lorsqu'on parle de pureté de cœur, on parle de unicité du cœur. Je donne toujours cet exemple-là. Quand on dit ça, c'est du jus d'orange pur. Ça veut dire que c'est jus d'orange sans rien d'autre. Quand on dit ton cœur doit être pur, il faut que ton cœur, là, ce soit Jésus seul qui soit dedans. Pas Jésus et Kokamba. Ou Jésus et les bijoux. Les deux luttent le fauteuil. La pureté du cœur, un cœur acquis à Dieu, un cœur qui n'est pas partagé, un cœur, c'est Dieu qui contrôle ce cœur-là, c'est Dieu qui a ce cœur, ce qui est tout entier acquis à Dieu. Parce que trop de gens ont leur cœur partagé, je te dis, dans l'église, ça se voit même dans leur comportement quand il s'agit de faire l'œuvre de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas prêts parce que leur cœur est partagé. Quand ton cœur est tout entier acquis à Jésus-Christ, quand ses intérêts sont engagés, tu ne peux pas ne pas réagir. Je dis, si ton cœur est tout entier acquis à Jésus, si on dit le nom de Jésus va être gâté parce qu'il y a ça à faire, mon ami, tu ne peux pas t'asseoir longtemps. Tu ne peux pas t'asseoir, ta poche est remplie ici, ta poche est remplie ici, et puis tu dis, oh non, faites quelque chose pour Jésus, les gars, s'il vous plaît, vraiment, il faut qu'on aide Jésus. Et tu es là, tu peux résoudre le problème, mais tu es là, tu dis, oh non, les gars, je vous assure, il faut qu'on l'aide. Ton cœur n'est pas droit. Tu mets le pasteur dans les problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Beaucoup de gens m'ont fait les promesses, ils m'ont mis dans les problèmes. Ils ne respectent pas leurs promesses. Je suis là et on m'attaque. Parce que j'ai des gens qui me font des promesses et qui ne tiennent pas. Je suis seul avec le pasteur Ange, on souffre sur la fête de la construction. Et les gens me regardent tous les matins et me disent, le pasteur, Dieu est fidèle avec toi. Sois fidèle avec moi aussi. Alléluia! Donc c'est très important d'avoir ces éléments-là. On va les développer point par point pour que vous compreniez. Frère, c'est important et c'est plus qu'important. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas le folklore qu'on vient faire. Parce qu'on finit dans l'affaire là. C'est quoi? Dieu veut te trouver parfait et te faire entrer au ciel. Dieu veut que la mission qu'il t'a confiée, tu puisses l'achever. Dieu ne veut pas que tu commences ta vie et que tu achèves ça mal. Mais je déclare que tu n'achèveras pas mal ta vie au nom de Jésus. Je dis, tu n'achèveras pas mal ta vie au nom de Jésus. Tout ce qu'il te faut comme ressource utile de ton vivant, je déclare que le ciel t'apporte ces informations au nom de Jésus. Que ces informations ne viennent pas après que tu sois tombé, mais que Dieu te les donne maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il te faut du caractère pour surmonter un certain nombre d'éléments. Je vais te donner deux éléments majeurs et puis on peut finir parce que le soir on a prié. Ne vous inquiétez pas, on va continuer. Hein. Ça, ne vous inquiétez pas. J'ai dit que il te faut une grâce pour commencer et puis terminer. Et dans votre parcours pour l'accomplissement de la vision ou du projet que Dieu a mis dans votre vie, il va avoir beaucoup d'obstacles. On a vu dimanche dernier. Dimanche dernier, on a parlé d'un fait important. On a lu un récit qui parlait de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais ce texte ne se trouvait pas au début de la vie de Jésus, ni à la fin de sa vie, mais au milieu de son histoire. Et dans les moments de douleur, de difficulté, on s'est rendu compte que le maître était seul. Tous ceux à qui il avait fait du bien avaient disparu. Tous ceux qu'il avait guéris, les 5000 qu'il a nourris avec le pain et le poisson, auraient pu, eux seuls, s'ils étaient déterminés, empêcher même les soldats de l'arrêter. Mais, au lieu de la douleur, les hommes disparaissent toujours. Mais en fait, quand Dieu te fait passer par la transition, par la douleur et par les difficultés, c'est parce qu'il veut que tu te connaisses toi-même. Parce que beaucoup de gens ne se connaissent pas. Oui, tu peux tout dire, Jésus-Christ est Seigneur. Mon ami, c'est parce que tu ne sais pas encore qui tu es. Quand la pression va venir, c'est là où on verra si ce Jésus-là est toujours Seigneur dans ta bouche. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Non, prions, jeûnons, parce que tout va bien. Quand la pression va venir, quand les difficultés vont venir, quand tu vas demander à Dieu une bénédiction et puis c'est des troubles qui viennent, c'est l'homme à voir jusqu'à où ta foi peut tenir. C'est pourquoi j'ai dit, il faut une vraie foi pour continuer à aimer Dieu, à le bénir, alors que rien ne va, alors que tes sujets de prière ne sont pas exaucés, alors que tu attends de Dieu, c'est un miracle. Les miracles ne viennent pas, c'est autre chose. Mon ami, combien de gens qui abandonnent Dieu là? Mais Dieu veut te révéler ton cœur, ton propre cœur, et te révéler ceux qui sont autour de toi pendant cette période. C'est important. C'est très, 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 très important. Donc, la transition est toujours obligatoire. Et dans les moments de transition, si dans cette dimension qu'on appelle la longueur du caractère, Dieu n'a pas... C'est-à-dire, il ne t'a pas travaillé comme il faut. Là, tu vas voir. Tu sais, si tu n'es pas encore passé par le feu, ça vient. Ça vient. Dis à ton voisin, ça vient. C'est obligatoire. Tu vas passer par là. Si Dieu te laisse et il ne fait rien, il faut lui dire non, Seigneur, il faut que ça vienne. Parce que ça veut dire que tu ne l'intéresses pas trop. Et ce n'est pas bon. Parce que ceux qui intéressent le Seigneur, là, ils passent par là. Même en tant qu'église, il peut arriver des moments où l'église est dans une situation de transition, où on a des besoins, on a des attentes, mais les attentes, là, on ne les voit pas. C'est difficile. Est-ce qu'on va continuer à garder notre standard de ce qu'on fait pour Dieu et à bien le faire alors qu'on a besoin de ça, ça ne vient pas. On a besoin d'argent, on n'a pas. Les choses sont difficiles, mais c'est juste une transition. Dans cette période-là, il te faut le caractère pour tenir. Il te faut du caractère. Par exemple, face à la déception, numéro un, c'est le premier point. La déception, vous savez, la vie, elle est faite souvent de déceptions. Tellement de gens. Une déception, c'est quoi? C'est, tu vois quoi? C'est-à-dire un déphasage entre tes attentes et ce que tu as. Tu as des attentes, tu t'attends à ce que Dieu fasse quelque chose, et puis c'est autre chose qui arrive. Tu es déçu. Parce que la déception, c'est l'illusion de ce que j'espérais ça et puis je n'ai pas vu. Donc, les hommes sont en général déçus. Mais la déception est un ennemi et quelque chose de difficile. Et si tu ne sais pas manager la déception, tu peux ne pas pouvoir achever ta course. Parce que dans tous les cas de figure, tu te maries, tu seras déçu. Tu commences boulot, tu seras déçu. Il n'y a pas quelque chose que tu peux commencer sur cette terre-là où la déception ne va pas venir se mettre quelque part. Parce que dans tous les cas de figure, tout ce qu'on commence vient avec enthousiasme, avec son lot d'illusions. Moi, je connais des gens mariés 4 mois, même pas 3 mois. Et puis, il me dit, mais attendez, pasteur, l'affaire-là, je ne savais pas que c'était comme ça. C'est maintenant que je découvre. Mon ami, le type que tu vois là, ou bien la dame là, tu ne la connais pas. Parce que, tu sais, les hommes, c'est ce qu'ils veulent te montrer qu'ils vont te montrer. Donc, toutes vos études là, arrêtez d'étudier. Je dis, je t'étudie. Mon frère, la femme là n'est pas un livre. Si tu veux la marier, tu la maries, tu fais confiance en Dieu. Genre, on s'étudie. Quelle étudie? Tu vas l'étudier jusqu'à ce que Jésus revienne, tu ne vas jamais le connaître. Étudier. On n'étudie pas quelqu'un, hein? Étudier. Faut étudier. Étudier un homme ou étudier une femme. Tu vas voir. C'est dans le foyer là, tu sauras qui il est. Tu dis quoi, chérie? Donc tu es comme ça. Dit. Tu vas faire des découvertes. Ça va? Tu vas faire des découvertes. Alléluia. Des découvertes importantes. Et tu sauras que, avec Dieu, là, ce n'est pas étude. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? La déception. Lis-moi Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36. Il y a beaucoup de versets ici. On va lire ça après, ok? Hébreux 10, 36. Qu'est-ce qu'il dit?
Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance.
De persévérance.
Afin. Qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis.
Ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il est en train de te dire, ce n'est pas toujours tout ce que tu vas attendre là qui va venir. Et au moment où tu attends ça, que si tu n'as pas une certaine dimension dans le caractère pour attendre et obtenir et recevoir ce qui t'est dû, mon ami, tu lâches prise. Combien de gens qui ont lâché prise au moment où Dieu était sur le point de faire la chose? Parce que il n'y a pas de dimension en termes de longueur dans leur caractère. Ils sont sur le point et puis ils laissent tomber, ils s'en vont faire autre chose. Et Dieu arrive, il met la bénédiction, le monsieur n'est plus là, il est parti. Parce qu'ils ne sont pas persévérants. Frère, ce n'est pas facile. Gérer la déception, il te faut du caractère. Ou tu as aimé quelqu'un et puis tu as déçu. Et tu le vois tous les jours. Et Dieu dit, bon, il faut laisser, il faut gérer ça. Parce que ça peut être un obstacle également. Ou tu as une attente. Tu dis, Seigneur, voilà, je suis à un certain âge. Dans cette année 2014, là, il faut que la chose arrive. Et puis, toutes les prophéties, tout le monde prophétise pour te dire, c'est ton année, c'est ton année, c'est ton année. Tu prépares tout, tu es prêt, tu attends. Tu dis, oh Dieu, ça c'est mon année. Toutes les paroles. Et puis, l'année la passe, il n'y a rien qui arrive. Je t'assure, si tu n'aimes pas Dieu, tu vas te poser la question si vraiment l'affaire de Jésus est vraie. Il y a des choses, hein? Mais tout ça là, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vivant. Il est vivant. Il est vivant. C'est juste le test de ta foi. Et souvent, lui-même, il est là, il te regarde. Et puis, il sourit doucement. Dieu. Il t'a pas encore, il t'a pas encore déçu. Tout ce que tu fais là, c'est comme il y a une dame tout à l'heure qui est venue me voir au bureau après le premier culte. Ah non, c'est difficile, j'arrive plus. Je tiens plus, pasteur. Je fais tout. Comment? Je fais tout, pasteur. Je prie, je jeûne, je paye mes dîmes, mes offrandes. Mais ce n'est pas une garantie. Dieu ne t'a pas donné garantie. C'est un peu comme visa. Quand tu vas à l'ambassade, on met un papier, on te dit, si tous tes documents sont complets, tout est en règle, c'est-à-dire la décision revient au consulaire. C'est-à-dire au consul général. C'est lui seul qui peut décider, même si tout est en règle, s'il te donne ou pas. Il n'y a pas de recours. C'est ce qu'on dit, Kabio Sio, là, quand on chante là. Le Dieu qui est assis sur son trône et qui dit, dont les jugements sont sans recours. C'est ça. Quand il parle, personne ne peut argumenter. Personne ne peut dire pourquoi. Il n'y a pas. Non, c'est ça, c'est le Dieu que tu sais. Il est dangereux. C'est pourquoi que je vois des gens se plaindre. Seigneur, je vais te laisser. Ça me fait rire. Faut le laisser. Ça marche. Les menaces, ça ne marche pas avec lui. Les menaces vont rallonger ton désert. Parce qu'à chaque fois que tu le menaces, il rallonge un peu. Pour voir jusqu'à où tu peux aller. Il rallonge un peu. Je t'ai dit. J'ai dit ça ici. J'ai dit, Dieu va faire quelque chose. Il va te laisser galérer. Et puis il va dire à Satan, viens ici. Ne touche pas à sa vie. Mon ami, tu vas galérer. Tu vas chercher la mort. La mort ne va pas venir. Tu te jettes, tu veux te suicider, on t'attrape. Tu vas vivre. Alléluia. Mon ami, c'est comme j'ai lu dans sur internet un truc. On dit l'homme le plus vieux du monde. Et puis la déclaration qu'il a faite, il dit la mort l'a oublié. Non, il était triste. Il a près de combien? Près de 170 ans ou bien je ne sais pas quoi. Et puis il est tout triste, il dit la mort l'a oublié. Mais je t'assure, à un moment donné ici, quand Osborne venait ici, Osborne se plaignait, il se disait, mais souvent il appelle, mais ça ne vient pas, il est fatigué, il veut partir vers le Seigneur, mais ça ne vient pas. Frère, Dieu va te donner la vie pour que tu comprennes. Ne t'inquiète pas, continue de te plaindre. Seigneur, sécurise sa vie. Mais qui l'apprenne? Dieu va te faire apprendre. Oh. Il y a un autre élément important ici. Il te faut du caractère. Pour demeurer dans le temps et savoir attendre Dieu. Vous savez, quand tu prends Hébreux 6, verset 12. Quand vous prenez l'histoire d'Abraham, frère, entre la promesse et l'accomplissement, ça a mis combien d'années? Hein? Répète. Toi, tu as 3 mois, 2 ans, 3 ans de retard. Et tu te plains, tu maudis Dieu. Seigneur, on va voir. Moi, je suis en train de vieillir, Seigneur. Je dis. C'est lui qui est Dieu. Disons, c'est lui qui est Dieu. Moi, j'ai appris à le connaître. C'est un Dieu, quand tu le défies, il te montre qu'il est ton créateur. On ne défie pas Dieu. Qui es-tu pour défier Dieu? Tu sais combien de gens qui sont comme toi, qui l'adorent dans le monde? Va en Chine. Va en Malaisie. Va au Qatar. Va partout. Il y a des gens qui lèvent la voix quelque part pour glorifier et bénir ce Dieu. Qui es-tu dans cette marée humaine de personnes pour menacer Dieu? Parce que tu attends un homme, il n'est pas venu. Tu attends de l'argent, ce n'est pas venu. Tu attends un miracle, tu ne l'as pas eu. Tu attends une position, tu ne l'as pas eu. Dieu le fait au temps convenable. Le temps que lui juge bon. Lis-moi Hébreux 6, 12. Je termine avec.
Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham,
oui?
Ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même.
Mm-hmm.
Et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité.
Mm. Oui.
En sorte que mm-hmm. lorsque.
Oui.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Par la foi et quoi? Là? On fait quoi? On hérite des promesses par la foi et la persévérance. C'est à ce niveau-là que ce n'est pas évident. Vous voyez? Le temps d'attente. Le temps que ça met. Le temps que ça va mettre. Mais j'ai remarqué avec Dieu, plus ça dure, plus l'affaire qui arrive est bonne. Parce que vous savez, Dieu ne prépare pas quelque chose. Les fast-food là, quand c'est rapide. Aujourd'hui, les chrétiens sont les chrétiens de fast-food. Tout ce que Dieu doit, oui, comme ça, je veux ça. Demain matin, on dit, je dis, si Dieu ne te montre que les miracles, il ne t'aime pas. On ne grandit pas avec le miraculeux. C'est ce qui a trompé les enfants d'Israël. Toute leur vie, ils ont connu une seule chose. Ils veulent man, ça y est là. Ils veulent ça, ça y est là. Dieu fait comme ça, c'est comme ça. Mais quand Dieu les a fait passer par la deuxième étape de leur vie, la transition, ils sont tombés dans les murmures. Maudit Dieu. Non, on retourne en Égypte. Il dit là-bas, il y a poulet, il y a tchèp, et puis il y a salade. Et puis ils disent, dans tous les cas, tu nous as dit de sortir avec les bijoux, non? Tous les bijoux, on a pris pour sortir là. On va faire veau d'or. Et ils sont allés, ils ont ramassé les bijoux de chacun. Enlève-moi ça. Ça, c'est or, non? Bien, c'est fait. J'allais prendre ça tout de suite pour dire, trouvez-moi un bijoutier, je vais payer ciment. Vous comprenez? Et les gars ont tout ramassé, ils ont fondu, ils ont fait un veau d'or. Moïse arrive, ils sont en train d'adorer notre Dieu parce qu'ils ne peuvent pas attendre. Dans toute leur vie, on les a habitués à tout ce qui est rapide. Mon ami, il faut apprendre à être persévérant. 25 ans, ton père Abraham a attendu. 25 ans. Pour une seule promesse. Et pourtant, quand tu vois Dieu parler là, tout à l'heure, même le passage qu'il a lu par erreur là, c'est à dessein qu'il a lu. Il dit certainement, je vais te bénir. Il dit, c'est déjà fait. Tout est préparé. Dieu parle. Mais vous savez, Dieu n'est pas un homme. Un jour est comme 1000 ans devant lui. Il dit au prophète, va à Sarepta, j'ai tout arrangé, la femme va te nourrir tout de suite. Et puis tu manges, et puis tu dors, et puis tu te reposes. Le prophète arrive, mon ami, il n'y a rien de tout ce que Dieu a dit. Tu sais, terminé dans la vie, ce sont les héros qui terminent. Et je vais te montrer comment devenir un héros. Comment changer les dimensions dans ta vie de telle sorte que, quel que soit ce qui arrive, il y ait seulement un chant dans ta bouche. Parce que tu connais le Dieu que tu sers. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut se lever pour prier Jésus ce matin?
Vous avez été béni par ce message. Vous voulez soutenir le ministère du pasteur Alexandre Amazou? Vous pouvez nous adresser un courrier à l'adresse info@abmci.net ou www.abmci.net.